si vous pouviez faire disparaître une chose de votre vie, comme ça, comme par magie, ce serait quoi? Une chose que vous aimeriez faire disparaître de votre vie. Le chien du voisin, vos allergies, votre cellulite, vos problèmes d'argent, ou le péché. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il y a beaucoup de choses qui nous dérangent dans la vie. Seulement, à quel niveau de la liste se situe le péché? C'est-à-dire le mal que nous commettons en acte, en parole et en pensée. Alors si vous êtes comme moi, vous êtes vraisemblablement capable de dépenser beaucoup de temps et d'énergie dans l'espoir d'éradiquer ces choses qui vous dérangent. Donc, par exemple, on va suivre des traitements pour faire disparaître une maladie. On va faire du sport et c'est fatigant, mais on va le faire quand même pour faire disparaître des rondeurs. On travaille dur pour gagner l'argent qui nous manque. On travaille plus pour gagner plus, etc. N'est-ce pas? Mais dans notre lutte contre le mal dont nous sommes les auteurs, qu'est-ce que nous investissons là-dedans? Et qu'est-ce que ça révèle, en fait, concernant notre sensibilité au péché, ou peut-être absence de sensibilité au péché? Alors, il est possible que certains parmi vous, vous soyez tout simplement pas des croyants. Ou peut-être que vous êtes tout jeune croyant. Vous êtes en train de découvrir la foi. Et du coup, pour vous, le concept de péché, ce terme même, c'est peut-être quelque chose d'un peu étranger pour vous, ou quelque chose auquel vous n'êtes pas encore très habitué. Mais en fait, beaucoup d'entre nous, même si ça fait longtemps que nous sommes croyants, beaucoup d'entre nous n'avons toujours pas mesuré à quel point le péché, c'est une tare, une difformité ignoble dans notre condition humaine. Même si ça fait des lustres qu'on est chrétien, nous n'avons toujours pas vraiment mesuré combien c'est ignoble le péché, combien c'est dégoûtant, combien c'est grave. Autrement dit, le péché ne nous dérange pas autant qu'il le devrait. Et si le péché ne nous dérange pas autant qu'il le devrait, alors on ne va pas chercher à le combattre autant qu'on le devrait. Et si nous ne cherchons pas à combattre le péché autant que nous devrions le faire, nous n'allons pas non plus apprécier, ni peut-être même recevoir, le secours que Dieu nous offre dans ce domaine. Alors je demande votre attention ce soir, parce que le texte qu'on est sur le point de lire et d'étudier a pour but de nous montrer, peut-être de nous rappeler, que nous sommes en vérité impliqués dans une guerre féroce. Et ce n'est pas contre le chien du voisin. Non, non. Ce n'est pas contre la cellulite, ni contre la pauvreté, ni même contre la maladie, même si ces choses-là peuvent paraître très féroces. Mais la guerre féroce dans laquelle nous sommes impliqués, elle est contre notre pire ennemi, contre notre adversaire qui rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer, pour reprendre une expression de l'Écriture. J'ai nommé le diable. Et le diable, il ne veut pas que je prêche cette prédication. Et donc, Matthieu, l'auteur de ce texte, l'évangéliste Matthieu, saint Matthieu, l'apôtre, veut qu'on ait conscience de cette réalité, pour qu'ensuite, de la réalité de cette guerre féroce dans laquelle on est impliqué, pour qu'ensuite nous comprenions que le secours dont nous avons terriblement besoin ne se trouve nulle part ailleurs qu'auprès de Jésus. Je ne sais pas si je vais y arriver. Hein. Souvenez-vous, si vous étiez là les dernières fois, si vous avez écouté les prédications sur Internet, souvenez-vous qu'à ce stade du récit, on est encore au début de l'Évangile, chapitre 4, à ce stade du récit, Matthieu en est encore au préambule en quelque sorte. Il va bientôt nous raconter le ministère public de Jésus, c'est-à-dire son enseignement devant des foules, son œuvre. Mais avant, Matthieu veut que nous sachions certaines choses à son sujet, au sujet de Jésus, notamment quel est précisément l'objet de sa mission et combien il est qualifié pour l'accomplir. Et en comprenant cela, alors seulement on comprendra ce qui constitue en fait la leçon ou la moralité de ce passage qu'on va lire, et qui est la suivante. Écoutez bien, comme d'habitude, c'est très très compliqué, donc il faut bien écouter. Rien ni personne ne nous est plus nécessaire que Jésus. Rien ni personne ne nous est plus nécessaire que Jésus. Vous voyez, c'est très compliqué. Vous avez bien fait d'écouter. Écoutez jusqu'au bout, mais c'est ça qu'on va devoir retenir aujourd'hui. On va lire le texte. Il s'agit de Matthieu chapitre 4, versets 1 à 11. Je me demande si Thierry, tu veux bien faire la lecture pour moi. Merci.
Je peux rester, oui.
Attends, on a besoin pour qu'on continue. Donc, Matthieu chapitre 4, versets 1 à 11. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Il jeûna 40 jours et 40 nuits, puis il eut faim. Le tentateur s'approcha et lui dit : Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit : Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit : Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit : Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit : D'autre part, il est écrit : Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Le diable le transporta encore sur une montagne très haute, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit : Je te donnerai tout cela si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit : Retire-toi, Satan, car il est écrit : Tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et à lui seul tu rendras un culte. Alors le diable le laissa, et voici que des anges s'approchèrent de Jésus pour le servir.
Merci. Je vous invite à prier, et puis ensuite on regardera tout ça un peu plus en détail. Seigneur, merci pour ta parole. Veuille maintenant nous assister de ton Saint-Esprit pour la comprendre. Viens au secours de ma voix, Seigneur, qui flanche, et permets-nous, Seigneur, malgré ces circonstances, de bénéficier de ce que tu veux nous communiquer au travers de ce passage. Au nom de Jésus. Amen. Alors j'ai là 2 litres d'eau, ça devrait faire l'affaire. Je vais essayer de ne pas parler trop fort en fait, pour pas trop solliciter ma voix. Alors, la leçon, la moralité de ce passage, rien ni personne ne nous est plus nécessaire que Jésus. La première chose en fait que Matthieu veut nous faire comprendre ici à travers le texte, ce texte au verset 1 à 4, c'est que le pire ennemi des hommes, c'est le diable. Et Jésus est venu se confronter à lui. Le pire ennemi des hommes, c'est le diable. Et Jésus est venu se confronter à lui. Ce qui se passe dans le texte ici est très intéressant. Parce que, à la fin du chapitre précédent, à la fin du chapitre 3, Matthieu vient de nous faire comprendre que Jésus était l'intermédiaire idéal entre les hommes et Dieu. Et que, en tant qu'intermédiaire idéal entre les hommes et Dieu, Jésus est venu établir le royaume de Dieu sur terre. Pardon. Et immédiatement après, tout de suite après la fin du chapitre 3, où il y a eu cette manifestation spectaculaire de la Trinité, une voix s'est fait entendre du ciel, le Saint-Esprit est descendu sur Jésus sous la forme d'une colombe, et la voix a dit : Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai placé toute mon affection. Tout de suite après, on apprend que Jésus doit passer 40 jours dans le désert pour y être tenté par le diable. C'est ce qui est dit au verset 1, le verset suivant. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit, sous-entendu par le Saint-Esprit, sous-entendu conformément à la volonté de Dieu. Il fut emmené dans le désert pour être tenté par le diable. Matthieu est en train d'attirer notre attention ici sur les véritables enjeux de la mission de Jésus, le Messie, qu'il est en train de nous présenter et dont il est en train de raconter l'histoire. Et Matthieu veut nous montrer que dans la mission du Messie, il y a quelqu'un qui a le rôle du méchant. Et c'est le diable. Et si le diable a le rôle du méchant dans cette histoire, dans la mission du Messie, c'est parce qu'il a le rôle du méchant dans l'histoire des hommes en général. Et donc, le texte va nous rapporter cette première tentation, versets 2 à 4, à laquelle Jésus est confronté. Et c'est une tentation très basique, quelque part, très évidente, mais qui résume pourtant à elle seule beaucoup de choses. Donc Jésus, il est en train de manifester sa foi en Dieu en jeûnant, c'est-à-dire qu'il se prive de nourriture pendant 40 jours, comme pour dire, eh bien, en tant qu'être humain, moi, Jésus, parce que rappelez-vous, il a la double nature, il est à la fois pleinement homme pleinement Dieu, mais en tant qu'homme, Jésus est en train de dire, voilà, mon contentement se trouve en Dieu et nulle part ailleurs, je n'ai pas besoin de me nourrir pour être satisfait, parce que mon contentement vient de Dieu. Mais là, le diable arrive et va mettre cette relation en doute, et il va attaquer la foi de Jésus. Tiens, regarde ces pierres. Avec un peu d'imagination, pourrait ressembler à des miches de pain, non? Tiens, et si tu es le Fils de Dieu, tu pourrais facilement transformer ces pierres en miches de pain. Mais ça contreviendrait exactement à l'intention de Jésus, qui était de jeûner pour manifester son contentement en Dieu. Et vous savez, le fait que le diable vienne mettre cette relation en doute, qu'il vienne attaquer la foi de Jésus, c'est ce que le diable a toujours fait, et c'est ce qu'il cherchera toujours à faire. Il veut faire du mal à la relation des hommes à Dieu. Il veut que les hommes fassent moins confiance à Dieu et qu'ils soient moins satisfaits en lui. Et Jésus ici est en train de vivre exactement ce qu'Adam et Ève ont vécu dans le jardin d'Éden. Hein. Vous vous rappelez de cette histoire où le diable s'est approché d'eux et leur a proposé une autre voie que la pleine confiance en Dieu et en sa parole. Dieu a-t-il réellement dit « Mais pas du tout, vous mourrez pas, en fait c'est encore mieux si vous mangez de ce fruit ». Ce sera encore mieux, vous voyez. Jésus ici, il est aussi en train de vivre ce que le peuple d'Israël a vécu pendant 40 jours et 40 nuits, les 40 jours et les 40 nuits que Moïse a passé au sommet du mont Sinaï en conversation avec Dieu. Pendant que Moïse était absent pendant 40 jours et 40 nuits, le peuple d'Israël était en bas de la montagne, et le peuple d'Israël, comme ils ont trouvé le temps long, ils ont été tentés de se tourner vers d'autres dieux. Ce qu'ils ont fait, vous vous souvenez, ils se sont construits une idole, un veau d'or. Et ils ont dit, voici les dieux qui t'ont fait sortir d'Égypte. Ils se sont détournés de Dieu. Encore une fois, le diable attaque la foi des hommes en Dieu. Il attaque la relation des hommes à Dieu. Jésus est en train de vivre dans ce passage ce que tous les hommes vivent en fait, sous les attaques du tentateur qui veut tout simplement faire du mal à la relation des hommes à Dieu. Vous voyez donc que Matthieu veut nous faire comprendre ici d'abord que le pire ennemi des hommes, c'est le diable. Il veut peut-être nous rappeler cela, que le pire ennemi des hommes, c'est le diable, mais que Jésus est venu se confronter à lui. Et Matthieu porte cette réalité à notre attention. Pourquoi ? Parce qu'il ne veut pas qu'on se trompe d'ennemi. Il ne veut pas qu'on se trompe d'ennemi. Et est-ce que ce serait grave, finalement, de se tromper d'ennemi ? Je ne sais pas. Ces derniers jours, vous avez peut-être vu des images de biathlon à la télé, hein, depuis le début des Jeux Olympiques. Je ne sais pas si j'avais l'occasion d'allumer votre télé, mais vous avez peut-être vu des images de biathlon. Et en biathlon, il y a un circuit, et les nombreux concurrents prennent le départ, pour les épreuves individuelles, ils prennent le départ à 30 secondes d'intervalle. Et chacun est chronométré par rapport au moment de son départ. Rien de plus normal. Mais ça fait qu'au bout d'un certain temps, on se retrouve avec beaucoup de gens différents sur le même circuit, mais à des stades différents de la course. Et dans ces conditions, si vous étiez un des concurrents, il vous serait très difficile de repérer votre adversaire direct, c'est-à-dire celui qui vous précède au classement. Parce que vous ne savez pas s'il est devant vous ou derrière vous. Il est peut-être derrière vous, mais pour son temps à lui, il est en train d'aller plus vite que vous. Vous ne pouvez pas savoir. Et si vous pensez l'avoir repéré, mais qu'en fait ce n'est pas lui. Et si vous adaptez votre course en fonction de son rythme, alors qu'en fait... Ce gars-là que vous pensez être votre adversaire, en fait, il est classé, mais loin, loin derrière vous, alors il n'y aurait aucune chance pour vous de gagner une médaille. Vous aurez complètement raté votre course. Alors, heureusement, de nos jours, il y a des oreillettes, hein, et puis il y a des affichages le long du parcours qui permettent aux concurrents de savoir qui, au classement, est devant, qui est derrière, et qui est son adversaire direct. Et dans la vie, en fait, c'est un peu la même chose. Nous vivons dans un monde qui est très confus. Il y a des choses qui se passent tout le temps dans notre monde, et ça part dans tous les sens, et il y a beaucoup de choses qui nous contrarient. La maladie, le chômage, la pollution, la météo nous contrarie, les impôts, etc., etc. Et nous pourrions être enclins à croire que notre adversaire direct, C'est une de ces choses-là. Et je ne sais pas ce qui vous préoccupe ces jours-ci, et peut-être que vous vivez comme si c'était cette chose-là qui était votre adversaire direct. Mais ce serait une erreur terrible. Et heureusement qu'on a Matthieu ici, qui nous rappelle dans l'oreillette, ou sur l'affichage du parcours, qui nous rappelle que le pire ennemi des hommes, c'est le diable. Et Jésus est venu se confronter à lui. Jésus n'est pas venu se confronter principalement à un pouvoir politique, ni à un système économique. Il n'est pas venu se confronter principalement à une culture, ni même à une religion, ni même à la maladie. Mais il est venu se confronter au tentateur, au grand dragon, au serpent ancien appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre habitée, pour reprendre une expression du Nouveau Testament. Il est venu se confronter à lui et il est venu lui écraser la tête, pour reprendre une autre expression, cette fois tirée de l'Ancien Testament, tirée d'une promesse millénaire qui concernait la venue de la descendance qui viendrait écraser la tête du serpent. Voilà qui Jésus est venu combattre. Mais la deuxième chose que Matthieu veut nous faire comprendre à travers ce texte, c'est que la tentation est le moyen principal par lequel le diable combat les hommes. Et Jésus est venu se battre sur ce terrain. La tentation, c'est le moyen principal par lequel le diable combat les hommes, et Jésus est venu se battre sur ce terrain. Alors on a déjà vu, je l'ai dit il y a quelques instants, que le diable voulait faire du mal à la relation des hommes à Dieu. Et ce qui se passe dans le texte maintenant, à partir du verset 5, c'est que le diable revient à la charge, il l'a déjà tenté une première fois, Jésus lui a répondu en citant la parole de Dieu, et puis le diable revient à la charge contre Jésus, et de manière plus agressive, plus féroce, versets 5 et 6. Il va transporter Jésus sur le haut du temple. On ne sait pas exactement s'il l'a fait physiquement, ou si c'était en esprit, ou s'il lui a représenté ces choses dans son esprit. En tout cas, il transporte Jésus sur le haut du temple et il lui suggère de se jeter en bas pour confirmer l'authenticité de son appel en tant que Messie, en tant que Fils de Dieu, celui qui a la faveur particulière de Dieu, qui est envoyé par Dieu, pour confirmer donc l'authenticité de son appel, mais aussi pour confirmer la fiabilité de la parole de Dieu. Quelle motivation louable du diable qui veut simplement que Jésus soit sûr de son appel et de la véracité de la parole de Dieu. Alors on pourrait sans doute passer beaucoup de temps à étudier la psychologie de ces différentes tentations qui nous sont mentionnées dans ce passage. Mais je ne suis pas sûr que ce soit vraiment ce qui intéresse Matthieu, l'auteur de ce texte. Je pense que ce qu'il veut principalement nous montrer, et tout simplement, c'est que le diable manie la tentation avec beaucoup d'expertise. Il manie la tentation avec beaucoup d'expertise. C'est un adversaire redoutable. Et il ne faut pas sous-estimer ses talents de négociateur, si j'ose dire. Autrement dit, maintenant qu'on sait qui est celui qui nous combat, il est important de savoir comment il nous combat. Maintenant qu'on sait qui il est, celui qui nous combat, il est important qu'on sache comment il nous combat. Alors je ne sais pas si vous avez vu le film d'animation Madagascar 2. Madagascar 2, je précise, pas le 1, pas le 3, le 2. Dans ce film, si vous l'avez vu, et si vous ne l'avez pas vu, je vous le raconte, à un moment donné, le héros, qui est un lion du nom d'Alex, il s'appelle Alex ce lion. Je n'invente pas, c'est pour ça que j'aime beaucoup ce film. À un moment du film, le héros se retrouve au milieu d'une meute d'autres lions, dans la savane africaine, et il doit accomplir un rite d'initiation pour être admis comme membre du groupe. Ok ? Et ce rite, pour ces lions, consiste à se battre en duel contre un autre lion. Ok ? Alex, donc, choisit comme adversaire, mais sans le connaître au préalable, il choisit comme adversaire un lion qui s'appelle Titi. Pensant qu'avec un nom pareil, ce serait sûrement un petit lionceau inoffensif, vous voyez ? Il pourrait remporter le duel facilement. Sauf qu'en réalité, Titi, c'est une brute monumentale et violente. D'accord ? Mais le pire, c'est pas ça. Le pire, c'est pas ça. Le pire, c'est que une fois qu'il se retrouve face à lui, entouré de tous les autres lions qui vont donc assister au combat, donc il est là dans l'arène quelque part face à Titsi. Une fois dans cette situation, le pire, c'est que Alex n'a pas compris qu'il s'agissait d'un duel où il fallait se battre. Il pense que c'est un concours de danse. Alors non seulement Alex finit par se ridiculiser, mais en plus il se fait assommer par Titsi très rapidement et il se fait renvoyer de la meute. Échec total sur toute la ligne. Donc mieux vaut savoir qui est notre adversaire, mais aussi comment il nous combat. Comment il nous combat. Et le diable, il ne nous convie pas, vous voyez, à un concours de danse. D'accord ? C'est pas comme ça qu'il fait. Ce que le diable fait pour nous combattre, c'est nous inciter à pécher, c'est-à-dire fondamentalement à nous fier à autre chose qu'à Dieu et à sa parole. Et le diable le fait de manière très, très persuasive. Alors bien sûr, j'ouvre une parenthèse, le texte n'est pas en train de nous dire ici, de nous faire comprendre que derrière chaque tentation, il y a le diable en personne. D'accord ? Ni même un démon en personne qui se déplace juste pour ça. Un peu comme Milou dans Tintin au Tibet, vous savez, il hésite entre transporter le message et déposer le message et ramasser un os à la place. Et il y a un petit Milou en ange qui apparaît sur l'épaule gauche et un petit Milou en diable sur l'autre. Non, mais derrière la tentation, il n'y a pas un démon à chaque fois, il n'y a pas le diable en personne qui vient exprès pour nous tenter. C'est pas ce que le texte veut nous faire comprendre ici, bien sûr. La tentation... En réalité, la tentation vient aux hommes de manière très diverse. L'apôtre Jacques, par exemple, il dit que chacun, je cite, « chacun est tenté parce que sa propre convoitise l'attire et le séduit ». Mais dans un autre passage, l'apôtre Paul dit aux Thessaloniciens qu'il leur a envoyé quelqu'un s'informer de leur foi, dans la crainte, dit-il, que le tentateur ne les ait tentés et que son travail, c'est-à-dire le travail de Paul, ne soit réduit à néant. Ce qu'on peut dire en tout cas, c'est que quel que soit le moyen par lequel les hommes sont tentés, la tentation porte toujours le copyright de Satan, le copyright du diable. C'est lui qui a inventé le concept, d'accord ? C'est lui qui, à l'origine, a tenté Adam et Ève, ce qui a conduit à la chute de toute l'humanité et la corruption du genre humain, la corruption de notre cœur à chacun. Donc Matthieu veut qu'on se rende compte ici que la tentation est le moyen principal par lequel le diable combat les hommes et que Jésus est venu se battre sur ce terrain. Jésus, il n'est pas comme Alex, il n'est pas comme Alex du dessin animé, mais il n'est pas comme cet Alex non plus. Jésus, lui, connaît d'avance son adversaire et il sait comment son adversaire combat les hommes. Jésus est donc venu et il s'est exposé aux offensives les plus féroces du diable. Il est venu se battre sur ce terrain-là. Il est descendu dans l'arène, vous voyez, sachant très bien ce qui allait s'y passer dans l'arène. Par conséquent, Jésus sait exactement ce que c'est que d'être tenté. Il sait ce que c'est que d'être tenté. Lorsque le diable s'est adressé à Jésus, en lui citant la parole même de Dieu, vous avez remarqué, c'est ce qu'il fait, hein, le diable ici. En citant la parole même de Dieu, lorsque le diable s'est adressé à Jésus comme ça, Jésus a eu en quelque sorte, dans sa nature humaine, Jésus en quelque sorte a eu envie de se fier aux apparences et de se fier à son propre jugement limité, toujours en tant qu'être humain, plutôt que de se fier entièrement à la parole de Dieu, à la parole de son Père. Il a eu envie. Il a eu envie d'agir selon ce que le diable lui disait, plutôt que selon ce que Dieu lui disait. Mais il ne l'a pas fait. Jésus a réellement été tenté, mais il n'a pas succombé à la tentation. Pourquoi ? Parce que Jésus est un meilleur exégète que le diable. Il interprète mieux la Bible que le diable. Et non seulement cela, mais il n'a pas succombé parce que Jésus est venu non seulement pour combattre dans l'arène, mais il est venu aussi pour gagner. Ce qui nous amène au troisième et dernier point. Et la dernière chose, en effet, que Matthieu veut nous faire comprendre, c'est que face au diable, Jésus a réussi là où tous les autres hommes ont échoué. Et par conséquent, il peut nous aider aujourd'hui. Jésus a réussi face au diable là où tous les autres hommes ont échoué. Et il peut nous aider aujourd'hui. Vous avez vu, à partir du verset 8, ce qui se passe, le diable revient encore une fois à la charge, pour la troisième fois, contre Jésus. Cette fois, c'est la tentation suprême en quelque sorte. C'est terrible ce qui se passe. Alors c'est peut-être un énorme coup de bluff, hein, ce que fait le diable ici. Mais en tout cas, le diable propose à Jésus d'accéder directement au trône de l'univers, il lui propose d'accéder directement au trône de l'univers sans passer par la souffrance et l'agonie de la croix, mais seulement en se prosternant devant le diable. Quelle tentation puissante! Quelle tentation puissante, non? Mais cette fois, Jésus lui cloue le bec, si j'ose dire, en lui citant un principe fondamental qui est le suivant, qui est que l'adoration ne revient qu'à Dieu seul. Verset 10, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et à lui seul tu rendras un culte. Point final. Fin de la conversation. C'est une réponse extraordinaire. Parce que Jésus sous-entend que même si le chemin de la loyauté à Dieu, c'est le chemin de la souffrance, on devrait quand même l'emprunter. Même si le chemin de la loyauté à Dieu, c'est le chemin de la souffrance, on devrait quand même l'emprunter. Autrement dit, Dieu est digne d'être suivi, même si on comprend mal où il veut nous conduire. Juste parce qu'il est Dieu. On suit Dieu d'abord, on pose les questions après. Et par cette réponse, Jésus remporte cette bataille contre le diable. Et celui-ci, nous dit le texte, laisse sa place à des anges qui viennent servir Jésus, comme pour couronner quelque part son succès. Tout cela pour nous montrer donc que, face au diable, Jésus a réussi là où tous les autres hommes ont échoué. Et il peut nous aider aujourd'hui. Jésus est le seul à avoir gagné cette bataille de la tentation contre cet expert de la tentation, à savoir notre pire ennemi, le diable. Et en comprenant cela, nous, on devrait comprendre que Jésus est donc le seul sauveur possible. Il est le seul sauveur possible. Il est le seul homme à avoir été plus fort que le diable sur ce terrain. Vous voyez ? Jésus est un genre de super-héros, idéalement qualifié pour nous aider dans notre lutte contre le diable, sur le terrain de la tentation. Alors moi j'ai des enfants qui sont en âge de bien aimer les super-héros. Et ces jours-ci, ils s'amusent à inventer toutes sortes de nouveaux super-héros. Il y a par exemple Acrobato, celui qui arrive à faire des acrobaties extraordinaires. Il y a aussi Elastico, qui a un corps souple et élastique. Il y a Télépo, qui peut se télétransporter. Il y a Double Élément, qui peut tirer du feu et de la glace. Il y a Arbro, qui peut se transformer en arbre. Il y a aussi Ressort, qui rebondit comme un ressort. Bon, voilà. Alors vous voyez, c'est extraordinaire. Tous ces pouvoirs peuvent s'avérer super utiles en fonction des méchants qu'on veut combattre et en fonction de la façon dont ces méchants combattent, la façon dont ils nous attaquent, vous voyez. Ça peut être super utile de se transformer en arbre contre certains adversaires. Eh bien, vous voyez, il y a un super-héros, un vrai cette fois, il n'est pas inventé celui-là, qui est parfaitement qualifié pour combattre et vaincre le pire ennemi des hommes. J'ai nommé Jésus. Le seul être humain à avoir été confronté au diable et à ses tentations, et à ses pires tentations, sans jamais avoir cédé. Sans jamais avoir cédé. Vous voyez, moi c'est lui que je veux avoir comme ami. C'est Jésus que je veux avoir comme ami. C'est Jésus que je veux voir combattre pour moi. Vous voyez ? C'est pas Superman, c'est pas Batman, c'est pas... double élément, élastico, tout ça, même s'ils sont super forts, ces gars. Moi, ce que je veux, c'est Jésus. Parce que on est dans une guerre féroce, avec en face le diable en personne. Et le seul à avoir fait ses preuves contre cet ennemi, c'est Jésus, personne d'autre. Vous voyez, Matthieu veut nous montrer à la fin de ce paragraphe, à la fin de ce passage qu'on a lu, que face au diable, je le disais, Jésus a réussi là où tous les autres êtres humains ont échoué. Il peut nous aider aujourd'hui. Il peut nous aider dans notre lutte contre le péché. Il peut vous aider aujourd'hui et dans les semaines qui viennent, dans votre lutte contre le péché. Et il peut le faire de trois manières, principalement. Il peut le faire d'abord par son exemple. Il peut nous aider par son exemple, parce que dans ce passage, on a vu que Jésus a manié à la perfection l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Et il n'y a pas si longtemps, Jonas nous rappelait dans une prédication que la parole de Dieu, la Bible, était un élément important de l'armure du chrétien. Vous savez, ces armes de Dieu qui sont confiées aux chrétiens afin, je cite, de tenir ferme contre les manœuvres du diable. Ça, c'est l'expression de l'apôtre Paul. Jésus nous aide par son exemple, donc, à condition que nous l'imitions en nous imprégnant à notre tour de la parole de Dieu et en nous y fiant entièrement, comme Jésus lui-même l'a fait. Mais il nous aide aussi, deuxièmement, par son soutien. Je le disais tout à l'heure, Jésus est descendu dans l'arène, il a été en première ligne, il a essuyé les attaques les plus féroces de la part du diable, il a été, pour reprendre l'expression de l'Épître aux Hébreux, il a été tenté, comme nous, à tous égards. Il sait parfaitement ce que c'est que d'être un homme, d'être un être humain. Il sait parfaitement ce que c'est que d'être tenté de commettre le mal. Il le sait. Nous pouvons nous tourner vers lui dans la prière et il ne va pas nous faire des reproches en retour. Il a été à notre place. Il sait ce que c'est que d'avoir envie de faire le mal. Mais il va nous assister de son esprit et de sa sagesse si nous lui demandons. Comme le dit l'apôtre Jacques, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il donne à tous libéralement et sans faire de reproche, et elle lui sera donnée. Jésus peut donc nous aider par son exemple, il peut nous aider par son soutien, mais il peut enfin nous aider par son triomphe. Par son triomphe, Jésus est sorti victorieux de cette confrontation avec le diable. Il est le nouvel Adam. Celui qui a résisté à la tentation, contrairement au premier Adam, le nouvel Adam, Jésus, lui, il a résisté à la tentation. Il est aussi le nouvel Israël, celui qui ne s'est pas prosterné devant un veau d'or. Il est aussi, parce qu'il a résisté contre les tentations du diable, il est aussi l'agneau sans tache et sans défaut dont le sacrifice peut expier les péchés d'une multitude d'hommes, de femmes et d'enfants, y compris les vôtres. Aujourd'hui, si vous êtes attaché à Jésus par la foi, si vous désirez l'aimer et le suivre. En fait, la Bible dit qu'en étant attaché à Jésus de cette manière, Jésus devient alors notre représentant. Et qui voudriez-vous avoir d'autre comme représentant, surtout auprès de Dieu, que le seul être humain à avoir vécu sans jamais pécher, le seul être humain à avoir obéi parfaitement à Dieu du début à la fin, le seul à avoir offert un sacrifice suffisant pour régler définitivement la dette de vos péchés. Le seul à être ressuscité des morts avec un corps glorieux. Et le seul à être monté au ciel, s'asseoir à la droite du Père au-dessus de toute la création. Qu'est-ce que vous préférez avoir comme représentant plutôt que lui, franchement? Il n'y a pas foule au portillon, comme on dit. Personne ne lui arrive à la cheville. Moi, c'est lui que je veux avoir à mes côtés. Quand vient la tentation, vous voyez. Voilà pourquoi, tout simplement, je disais en introduction que la leçon ou la moralité de ce passage, c'est que chaque jour, dans notre lutte quotidienne contre le péché, eh bien, rien ni personne ne nous est plus nécessaire que Jésus. Prions.